Bonsoir et bienvenue à votre avis, l'émission interactive de VO Afrique. Nous émettons depuis le studio 9 de VO Afrique ici à Washington. L'émission de ce mardi est consacrée à l'avenir des relations entre la France et l'Afrique. À votre avis, comment voyez-vous ces relations après l'élection d'Emmanuel Macron? Nous vous donnons la parole dans À votre avis. Vos commentaires et réactions sont attendus sur Facebook et en direct au 001-202-205-2633. Cette émission est produite par Joselle Morissin et Sims Lumami. John Linden à la présentation, pardonnez ma voix un tout petit peu enrouée. Pour m'accompagner dans cette émission, j'aurai le plaisir de recevoir Abdelaziz Moundé. Abdelaziz Moundé est journaliste consultant et spécialiste des relations internationales. Abdelaziz, bonjour.
Bonjour, John.
J'ai presque envie de vous présenter mes vœux pour 2017, bien que l'année soit fortement entamée, tellement on ne s'est pas parlé depuis là.
Oui, merci. C'est avec plaisir que je suis l'émission et que je suis les excellents interlocuteurs, les experts, les journalistes que vous invitez régulièrement pour le plaisir des auditeurs de La Voix d'Amérique.
Alors, merci à vous pour votre disponibilité. Alors, on va commencer cette émission par la question du jour. Comment est-ce qu'on voit l'avenir des relations entre l'Afrique et la France après l'élection d'Emmanuel Macron? Mais peut-être déjà, je voudrais recueillir votre avis sur l'élection de ce monsieur.
Oui, sur l'élection d'Emmanuel Macron, je m'étais positionné à titre personnel pour la défense de valeurs universelles qu'il semblait incarner tout au moins dans son discours, parce que l'élection de la candidate du Front National, Marine Le Pen, aurait été justement le signe que la France basculait dans une sorte de tendance et de mode populiste qui privilégiait ceux qui assument un racisme, un discours xénophobe, réactionnaire et tout au moins hostile à l'immigration, avec des amalgames qui portent souvent à des conséquences très graves. Donc sur ce plan-là, on va dire une satisfaction pour quelqu'un qui défend des valeurs universelles. L'attachement à l'autre, une certaine ouverture d'esprit, des valeurs de renouvellement, comme celles que Emmanuel Macron a pu avancer, et tout aussi une sorte de discours assez courageux comme celui qu'il a tenu sur la question de la colonisation en Afrique. Donc je pense qu'il y a là une satisfaction qui peut tenir de la confrontation entre deux valeurs, deux systèmes de valeurs, la confrontation entre deux discours, la confrontation entre deux personnalités.
Et voilà, vous restez avec nous, on va développer un peu plus le sujet dans cette émission. Le temps de prendre notre premier auditeur, Diallo Tierno Oumar. Diallo, bonsoir. Diallo, bonsoir. Voilà, apparemment Diallo Tierno n'est pas à côté de son téléphone. Je vais lire cette réaction de Facebook. Non, on a plutôt Hassan. Hassan, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, merci pour votre disponibilité aussi à participer à cette émission. Vous, quelle est votre réaction? Comment voyez-vous l'avenir des relations entre l'Afrique et la France après l'élection d'Emmanuel Macron?
Bon, l'avenir pour la France et l'Afrique, pour moi, n'a pas de sens bénéfique pour l'Afrique. Mais du côté de la France, elle est bénéfique parce que bon, il y a une relation qu'on appelle la relation France-Afrique, et que le président Denis Sassou Nguesso a avec la France. Mais là-bas, l'Afrique ne gagne rien.
Donc pour vous, l'Afrique n'est pas ne gagne rien dans ses relations entre la France et le continent.
La France et l'Afrique. Alors, ce que je peux dire là-bas, c'est que les Africains peuvent attendre du côté de la France, c'est la politique de Mme Le Pen qu'elle avait dit dans la campagne.
Voilà.
Alors, de donner une somme d'argent pour le développement de l'Afrique.
Voilà, merci beaucoup.
Les Africains peuvent attendre sur cette relation. Mais du côté de...
Merci beaucoup, Hassan, pour votre contribution. Abdelaziz Moundé, ce qui marque ce président, c'est non seulement sa propre jeunesse, mais aussi celle de son mouvement En Marche. Qu'est-ce qui, à votre avis, a milité pour sa victoire? Et est-ce que cette jeunesse peut être pour lui un atout ou un inconvénient dans les relations avec l'Afrique, sachant que le continent africain a, dans la plupart des pays, des gens qui sont un peu plus âgés que lui? Abdelaziz? Voilà, on a perdu Abdelaziz. Peut-être on va l'appeler tout à l'heure. On va prendre un autre auditeur au bout de la ligne. Allô, bonsoir. Voilà, Brahim, bonsoir.
Bonsoir, je suis à l'écoute.
Voilà, on vous écoute. À votre avis, comment voyez-vous l'avenir des relations entre l'Afrique et la France après l'élection de Macron?
Avec sa compétence et son âge, j'espère qu'il va continuer à renforcer la coopération qui existe entre l'Afrique et la France. Mais pour pouvoir maintenir cette relation, il faut qu'il doit légiférer dans le Parlement. Il faut qu'il y ait plusieurs députés. Avec un candidat indépendant, un président indépendant, ce n'est pas du tout facile. Je pense qu'il sera toujours influencé. Il sera toujours influencé par les partis qui dominent toutes les décisions dans le Parlement. Je pense que l'Afrique ne doit pas aussi compter sur la relation qui va mettre en place. Nous devons agir par notre propre force et notre propre moyen. Ça a été toujours le cas. Depuis François Mitterrand jusqu'à nos jours, la France cherche toujours à défendre son intérêt sur le plan politique et économique. Donc je pense que sa nouvelle vision, je ne suis pas du tout optimiste que l'Afrique s'en sortira. Que l'Afrique s'en sortira quand même.
Voilà, merci beaucoup pour votre participation. On va prendre un autre auditeur au bout de la ligne, c'est Durand Matisse. Matisse, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, vous vous dites que rien ne va changer entre la France et l'Afrique. Pourquoi?
Oui, bien évidemment, parce que ce que nous avons toujours observé, je me souviens bien du dernier discours du président Hollande concernant le référendum au Congo-Brazzaville, il avait marqué sur cela, que ce n'était pas possible. Mais bien après, il dit que le président avait le droit de consulter son peuple. Nous remarquons, donc nous avons automatiquement constaté qu'il n'y avait que leurs intérêts qui comptaient. Vu qu'on leur avait donné des marchés au Congo, automatiquement ils ont laissé faire le président. Voilà, donc ça ne va pas changer. Ce qui comptera pour Macron, ce sont les intérêts de la France. Une fois que leurs intérêts ne sont pas menacés dans les pays africains où ils ont des entreprises, des lobbies par-ci, par-là, une fois que leurs intérêts ne sont pas menacés, ils les feront faire. Il ne va rien faire, il ne va rien changer. C'est la suite. Ça a toujours été comme cela. Depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la suite, la continuité. Ils ne vont rien changer. Donc, c'était mon point de vue. Je pense qu'on va le constater dans peu de temps, là, quand il va prendre...
Merci Durand Matisse pour votre contribution. On a renoué la connexion avec Abdelaziz Moundé. Abdelaziz, je disais que ce qui marque chez ce président, c'est non seulement sa propre jeunesse, mais aussi celle de son mouvement En Marche. Qu'est-ce qui, à votre avis, a milité pour sa victoire et est-ce que cette jeunesse constitue un atout ou plutôt un inconvénient dans ses négociations avec les chefs d'État africains lorsqu'on sait que la plupart d'entre eux sont plus âgé que lui.
Alors donc, concernant ce qui aurait pu militer, je pense qu'on l'a abondamment dit dans les médias, mais je vais résumer à trois choses. D'abord, la première, c'est une audace absolument assumée, un sens de la transgression, parce que Emmanuel Macron a dû se défaire d'un certain nombre de pesanteurs, un système qui est installé bipartisan entre la gauche et la droite, et puis avec le Front National en embuscade. Il a essayé de réaliser un vieux rêve français qui était celui de Mendès France, de Valéry Giscard d'Estaing ou de Michel Rocard, c'est-à-dire de gouverner au centre, les deux tiers de la France. Avec son résultat du deuxième tour, on l'a vu, même s'il s'agissait d'un Front républicain, à plus de 66%, on est dans ces deux tiers-là. La deuxième chose, c'est la baraka, une formidable baraka. Emmanuel Macron se présente. En décembre, François Hollande renonce à l'élection présidentielle pour cause d'impopularité et la primaire socialiste se déroule. Et pendant la primaire socialiste, il y a la primaire de droite, il y a le champion de droite François Fillon qui est sous le coup des affaires, élimination d'Alain Juppé qui était favori et par conséquent après de François Fillon. Donc vous avez un concours de circonstances comme ça qui favorise, Machiavel disait la bonne fortune et ce qui fait les hommes d'État, qui favorise Emmanuel Macron. Et puis troisièmement, effectivement, c'est un tout de la jeunesse du renouvellement. C'était un pari audacieux. On avait pensé que celle comme Ségolène Royal, qui était tout aussi transgressive, innovante dans leur approche, c'était une femme, n'avait pas réussi, et que Emmanuel Macron ne pouvait pas réussir, ou d'autres avaient échoué. On va dire ça plus simplement. Donc il y a ce triptyque-là, l'audace, la baraka, et puis justement une fraîcheur dans les idées, une ouverture relativement plus importante que les autres, et puis justement un dépassement des clivages. Et pour votre deuxième question, je pense que cette question de la jeunesse est tout aussi importante que les premiers éléments qu'on a évoqués. Jeunesse, pourquoi ? Parce qu'Emmanuel Macron, c'est le premier président français de la Ve République qui est né après la période de décolonisation, donc des années 60 en Afrique, qui ne vit pas ses relations comme on pourrait l'imaginer avec ses prédécesseurs, ou même François Hollande qui avait déjà cette distanciation-là, mais qui était quelqu'un qui avait connu dans les années 80 Mitterrand et les réseaux de la France-Afrique. Mais tout aussi, cette jeunesse-là peut parler à l'Afrique, là, médiant dans des pays comme le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, le Togo, tout au moins dans la zone d'influence de la France, c'est 17-20 ans. Voilà. Donc Emmanuel Macron a 39 ans, c'est quelqu'un qui est à plus ou moins proche d'une Afrique qui bouillonne. Une Afrique qui bouillonne aussi avec un sentiment anti-français, parfois qui est fort, qui est lié aussi à l'absence d'un vrai discours sur ce passé lourd et pesant.
Voilà, dont on reparlera tout à l'heure. On va prendre Didier Mutombo. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, votre réaction, à votre avis, comment voyez-vous l'avenir des relations entre l'Afrique et la France après l'élection d'Emmanuel Macron?
Oui, pour moi, je peux juste dire que vraiment, les élections en France se sont bien passées. Là, je suis d'abord en train de féliciter Emmanuel Macron.
Tout à fait.
Pour son élection. Mais par rapport aux relations de la France par rapport à l'Afrique, je pense bien que c'est la même politique qu'avec François Hollande, qu'avec les autres présidents qui sont passés après Emmanuel Macron. Parce que la fois dernière, François Hollande, pratiquement moi je vis en République démocratique du Congo, la fois passée, on pensait qu'avec l'élection qui s'est passée pour François Hollande, on pensait que les choses pouvaient changer en RDC et tout comme en Afrique, mais nous avons compris que c'était le même jeu. Là, nous sommes en train de comprendre que la politique française par rapport à la politique africaine, c'est juste le parapluie de la France par rapport à ce qui concerne la politique africaine. Ça veut dire que la France est en train d'utiliser les Africains comme un parapluie pour se protéger contre la pluie, contre le soleil. Et quand je dis cela, vous devez comprendre d'une manière politique que vraiment, nous n'espérons pas vraiment quelque chose plus que ce que nous pouvons réfléchir.
Merci beaucoup, Didier Mutombo. Je vais rebondir sur une question pour Abdelaziz Moundé par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure. Alors, Mutombo parle des mêmes choses qui ne changent pas. Quelle est, vous, la différence que vous pourrez faire entre Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il pourra apporter que les autres, par exemple, n'ont pas apporté à l'Afrique?
D'abord, il y a un élément, John, il y a d'abord un élément psychologique. C'est très important dans les relations entre les peuples, entre les États, entre les nations et dans des contextes troublés comme les nôtres. Le respect. Nicolas Sarkozy a tenu un discours absolument humiliant, qui était empreint d'ignorance, de paternalisme à Dakar, sur l'Afrique qui n'était pas entrée dans l'histoire. C'était à contrepoint de tout ce que l'Afrique représente. Vous savez, le berceau de l'humanité, c'est aussi le foyer des civilisations, des premières civilisations, l'Égypte. Et vous avez remarqué que Emmanuel Macron a fait un choix qui était lourd de symboles. Il a choisi de fêter, célébrer son investiture ou son élection au Louvre. Le Louvre, c'est peut-être la résidence des anciens rois de France, que je n'ai pas cité ici, mais c'est aussi un endroit qui abrite quelque chose d'important, qui abrite une civilisation qui est chère à l'Afrique, c'est la civilisation égyptienne, avec une pyramide du Louvre qui a été réinterprétée à la demande de François Mitterrand par un architecte chinois, Minpei. Et vous savez très très bien que ces questions-là ont failli coûter à Emmanuel Macron son élection. Souvenez-vous qu'il a dit qu'il respectait les peuples, les cultures, les différences, et il respectait surtout ce que l'Afrique, les Africains, ont apporté à la France. L'extrême droite a bondi, la droite a bondi sur ce propos d'Emmanuel Macron, bien avant même qu'il ne tienne son propos en Algérie sur la colonisation comme étant crime contre l'humanité. Donc il y a déjà ça, c'est la première fois dans une élection en France qu'un candidat soit aussi courageux, aille aussi loin dans les questions qui sont chargées, je dis bien chargées dans la politique française. Il y a des gens qui n'existent politiquement en France que parce qu'ils sont liés, ils sont nostalgiques de ce passé colonial-là, algérien, français, de cet empire colonial. Donc il y a cette question qui est très importante sur le plan psychologique, qui peut permettre déjà de discuter d'un certain nombre de contentieux que la France entretient avec l'Afrique.
Alors on va prendre Haruna Traoré, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous pensez-vous aussi que rien ne va changer? Pourquoi?
Pourquoi? Parce que depuis l'avènement de la 5e République, donc Emmanuel Macron doit être le 8e président de la 5e République. Donc, Henri de Gaulle et puis Georges Pompidou, pratiquement tous ceux qui se sont suivis à l'Élysée sont en venant pendant les campagnes électorales. On tous prôné pour le changement, de la politique française en Afrique. Bon, pratiquement, c'est comme un concept qui est là. Et que tout le monde vient, donc il prône d'abord un concept qui est là. Mais le concept change d'un présent à un autre.
Voilà.
Dans la mesure où, pour moi, depuis la colonisation jusqu'aujourd'hui, l'Afrique sert de réservoir seulement pour la France. Mais regardez, le néocolonialisme est là. Pratiquement, notre monnaie est garantie par les trésors français. Donc, ils font tout pour nous maintenir dans ce statu quo-là.
Voilà.
Donc, seulement, le concept change avec les présents seulement. C'est tout. Ça, c'est mon humble avis.
Merci.
Mon humble avis.
Merci, Haruna, pour votre contribution. On va prendre Mamadou Mota depuis le Cameroun. Bonsoir. Mamadou Mota. Voilà, on a perdu Mamadou Mota. Je vais revenir avec vous à Abdelaziz Moundé. On a parlé ces derniers temps on a beaucoup parlé du franc CFA. Est-ce qu'on sait finalement ce que Macron pense de cette monnaie et quelles sont ses positions et qu'est-ce qu'il peut ou pourra faire?
Emmanuel Macron a été ministre de l'économie et des finances, et à ce sujet, dans une récente interview au Monde Afrique et à Jeune Afrique, il a dit que il relevait que les chefs d'État africains, je pense que ce n'est pas anodin son propos, il faut souligner les mots, les chefs d'État africains étaient attachés avec raison à cette monnaie et qu'il est ouvert à toutes les discussions. Ça rejoint un tout petit peu en creux le propos de Michel Sapin, qui a répondu lors de la dernière conférence à Abidjan sur la zone franc, qu'il appartenait aux Africains de se décider. Eh bien, c'est aussi une ère des responsabilités, voyez-vous, John Lennon. Je pense que Emmanuel Macron l'a dit, les chefs d'État sont attachés à ce système d'essence coloniale, d'asservissement monétaire, de surveillance coloniale, qui pourrait être le fondement d'une monnaie régionale africaine. Et c'est à ce moment-là qu'on interroge aujourd'hui le lien entre les opinions publiques africaines largement défavorables au maintien du franc CFA et les chefs d'État africains qui sont des sortes de garants d'un système d'élite qui profite effectivement de ce franc CFA-là. Parce que tout ce qui est considéré comme un avantage positif du CFA n'est pas un avantage pour les peuples, pour les populations africaines. C'est un avantage pour les élites. Alors, Alors, sur la question de la monnaie régionale africaine, je constate que l'UEMOA, dans la zone d'Afrique de l'Ouest, avait déjà programmé d'avoir une monnaie unique à l'horizon 2020. Eh bien, je crois qu'il y a une nécessité de responsabilisation de nos chefs d'État sur la question. Il faudrait enfin que cette question du CFA soit réglée par les Africains eux-mêmes, qu'ils se décident et qu'ils prennent leurs responsabilités, parce qu'il n'est pas de l'intérêt d'un chef d'État français de bouger les lignes de manière aussi révolutionnaire ou radicale. Et je pense que la question serait plutôt ce lien, ces accords budgétaires avec le Trésor français, cette dimension verticale qui impose encore que les Français soient présents dans les conseils d'administration de la BEAC et de la BCAO, à quand ça se terminerait?
Justement,
est-ce qu'on va encore avoir, sous Emmanuel Macron, des réunions de ministres des Finances qui sont présidées par le ministre français qui convoque ses 14 collègues africains, ou lui et moi et la CEMAC vont prendre leurs responsabilités et
vraiment
jeter les bases d'une monnaie régionale africaine?
On comprend donc que les choses devraient se décider du côté des chefs d'État africains. Je vais lire cette réaction de Sehou Ousmane qui nous dit: pourquoi vouloir toujours instrumentaliser les choses? Pourquoi devrait-on parler des relations entre un pays et tout un continent? La France n'est qu'un partenaire des États africains parmi tant d'autres. Mais en ce qui me concerne, les relations entre la France et l'Afrique changeront sur tous les points. Ils pensent que sur le plan idéologique, la France va accentuer la reconnaissance et des effets négatifs du colonialisme. On va prendre un autre auditeur au bout de la ligne. On a quelqu'un. Non, je vais lire cette réaction. C'est tout. Allô? Hugo Wapi, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà.
Bonsoir d'Afrique et bonsoir à tous les auditeurs de la...
Voilà, merci pour votre patience. Votre réaction, comment voyez-vous l'avenir des relations entre l'Afrique et la France à l'ère Macron?
Écoutez, monsieur le journaliste, la relation que la France et l'Afrique a toujours entrepris, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis l'époque coloniale. Bon, si Emmanuel Macron devait apporter quelque chose de fiable en Afrique, ça devait se ressentir même dans sa campagne. Mais pendant sa campagne, nous avons constaté tout cela. Il n'a même pas évoqué l'Afrique. L'Afrique n'a même pas été évoqué. Le sujet de l'Afrique n'a pas été évoqué. C'est ça qui était vraiment aussi regrettable. Et de ma part, les Africains devaient aussi comprendre une chose, que l'Afrique doit se développer par elle-même et par ses fils, et non par d'autres puissances étrangères qui prétendent. La France n'est que, comme je viens de le dire, comme un compatriote vient de le dire, la France n'est qu'un simple partenaire d'échange. Mais la France a une influence vraiment dans nos pays en Afrique, surtout en Afrique noire.
Voilà.
En Afrique noire, vraiment, parce que...
Merci Hugo Wapi. On va prendre, on va prendre un autre auditeur. Mamadou Mota, bonsoir. Mamadou Mota, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Voilà, en quelques secondes, votre réaction.
Vous savez, l'élection de Macron, c'est une très bonne chose. Beaucoup de jeunes Africains se sont identifiés à celui-là, croyant que leur avenir devrait peut-être changer aussi avec l'avènement de Macron à la magistrature supérieure. Hein. Mais il faut que le peuple africain comprenne que en réalité, c'est les multinationales qui dirigent la relation France-Afrique.
Voilà, on a suivi ce point de vue. On va prendre une autre réaction, celle d'Epiphane Famoni. Bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
En quelques secondes, votre réaction.
Oui, je disais à travers mon poste qu'il ne faudrait pas attendre quelque chose de particulier de venir de Macron concernant sa politique à l'endroit de l'Afrique, puisque... en tenant compte de ce qu'il avait dit lors de sa campagne, certains points stratégiques tels que le maintien des bases militaires en Afrique, des bases militaires françaises en Afrique, font partie de ces volets-là.
Voilà, merci Epiphane. On va mettre fin à cette émission dans quelques secondes. Je vais boucler par vous, Abdelaziz Moundé. Est-ce que les Africains noirs se sentiraient mieux en France cette fois-ci avec Macron qu'ils ne l'auraient été avec Le Pen?
Je crois qu'il y a eu, je parlais tout à l'heure de psychologie, je pense qu'ils ont dû souffler un tout petit peu. C'est 10%. 20% quand même de la population française, des migrants d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord.
Merci.
C'est très important. Ils ont dû souffler parce que ce qui aurait pu se passer avec le Front National allait être tout autre chose.
Merci beaucoup Abdelaziz Mounté. Merci à tous nos auditeurs et à ceux qui nous ont contactés. C'est la fin de cette émission d'À votre avis. John Lyndon était à la présentation. Michel, j'allais dire, Joselle Morissin et Sim Seloumami étaient à la production. Bonsoir.